Au fil des mots.
Une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelong, médiathèque de Lafitte Vigordan. Et nous retrouvons pour cette rentrée Stéphanie et Luc pour le fil des mots, une aventure qui dure déjà depuis un an. Une nouvelle année. Bonjour.
Bonjour Gisèle.
Bonjour Gisèle. Et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Nous sommes ravis, heureux de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. Oui, ça fait déjà un an que nous sommes sur les ondes de Radio Galaxie et nous espérons y rester encore longtemps, si vous voulez bien nous y écouter. On va vous présenter notre nouvelle émission qui reste sur le même schéma que l'année précédente et j'espère que vous serez satisfaits.
Des actualités à Lafitte pour cette médiathèque.
Oui, Gisèle, on ne parle plus de médiathèque, on parle de l'école des mots Marie Lannelong, comme vous avez d'ailleurs pu vous en rendre compte dans le générique.
Le baptême a eu lieu.
Oui, le baptême a eu lieu. J'avais présenté à la dernière émission au mois de juillet, si mes souvenirs sont bons, qui était Marie Lannelong. Alors pour ceux qui étaient peut-être déjà partis en vacances,
ou qui ont oublié,
je vais redonner en deux mots qui était cette personne et pourquoi on a donné ce nom-là à la médiathèque de Lafitte. C'est une dame qui s'appelait Marie Sibiel. Elle était née en 1836 dans une famille bourgeoise qui était dans le commerce et l'industrie des tissus. En 1857, voilà le rapport avec Lafitte, elle a épousé en première noces le vicomte Pierre de Rémusat, fils de Charles de Rémusat, bien connu dans la région. Malheureusement, elle s'est retrouvée veuve à 25 ans, alors elle a décidé de consacrer une partie de sa vie et puis de sa fortune aux autres, et c'est pour cela qu'elle a créé dans la région deux écoles, celle de Fabas et celle de Lafitte Vigordan, des écoles réservées aux filles, puisque en ces temps-là, il n'y avait que des écoles de garçons. Au cours de la guerre de 70, longtemps après son veuvage, elle a rencontré un brillant chirurgien qui s'appelait Odilon Lannelong, qu'elle a épousé en 76, en 1876. Elle est décédée en 1906, à Paris. Depuis, on a donné son nom à un centre chirurgical du Plessis Robinson qui s'appelle désormais l'hôpital Marie Lannelong en sa mémoire. Et en plus, j'ai découvert au cours de promenades estivales que certaines d'autres écoles portaient aussi le nom de Marie Lannelong. C'est le cas par exemple dans la petite station thermale de Castéra-Verduzan dans le Gers.
Donc voilà.
C'est un personnage qui est relativement connu dans notre région.
Mais merci pour ce petit coin historique et patrimonial, il faut dire, après tout.
Voilà.
Qu'est-ce que nous allons avoir dans cette émission Grignotage au fil des pages?
Voilà.
C'est quand?
Donc, Grignotage au fil des pages, c'est un cycle de soirées qui dure aussi depuis plus d'un an à l'école des mots Marie Lannelong, et qui se passe à peu près une fois par trimestre. Au cours de ces grignotages, on invite un auteur, ou on présente des nouveautés, ou les gens qui sont là parlent des livres qu'ils ont lus. Et puis, grignotage, vous avez compris, ça finit toujours autour de quelques assiettes et de bons verres. Le 29 septembre, ce sera le prochain grignotage. Il aura lieu à 19h. On a une invitée qui sera là, qui s'appelle Sarah Nouche-Popardin. C'est une illustratrice de bandes dessinées et d'albums jeunesse. Elle a son pédigré des livres pour enfants qui s'appellent Pongo. Pongo, c'est l'histoire d'un chien un peu loufoque. Et aussi des bandes dessinées adultes. D'ailleurs, rien que le titre « Histoire cochonne », il n'y a pas besoin de réfléchir pour savoir à qui ce livre est destiné. Donc cette personne sera là pour présenter son travail, pour discuter et répondre aux gens qui voudront bien venir la rencontrer.
Faudra-t-il réserver ses places pour venir à cette soirée?
Vous êtes optimiste, Gisèle.
On aimerait
très
bien.
Optimiste, nous serions ravis. Mais jusqu'à présent, la salle de la médiathèque est assez grande pour accueillir la foule qui va se presser.
Nous accueillerons donc, tout le monde.
Très bien.
Nous accueillerons tous ceux qui veulent bien venir nous...
Et au contraire, on espère qu'il y en aura beaucoup qui viendront. Donc, je le rappelle, c'est le 29 septembre à 19h à la médiathèque, l'école des mots, Marie-Lanne-Long, de la fille de Vigordan.
Ça, c'est en septembre. On va passer au mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous prévoyez le 28 octobre un café-théâtre. Alors, c'est quoi ça?
Tout à fait, Gisèle. Alors, on a un automne qui est très chargé en date. Donc, retenez bien celle-ci. Le 28 octobre, un café-théâtre avec une troupe de théâtre, la compagnie Abisto, qui viendra jouer une pièce intitulée « Les voisines ». Une assiette sera proposée aux gens qui viendront voir la pièce. Ils pourront s'installer, manger en même temps.
Rien qu'une assiette?
Rien qu'une assiette et puis un petit verre aussi. Une assiette bien garnie. Une assiette bien garnie à déguster en écoutant et en regardant la pièce de théâtre.
Est-ce que là, il faudra réserver ou pas? Ça sera à la salle des fêtes? C'est à la médiathèque?
Alors là, il faudra effectivement réserver. Seulement, bon, on n'a pas... lancer encore, si vous voulez, la publicité.
D'accord.
Puisque c'est quand même que fin octobre, mais dans l'émission d'octobre, on ne manquera pas de solliciter des réservations.
Parfait.
Là, effectivement, il faut le faire parce que... Oui. Pourquoi? En deux mots, parce que c'est un café-théâtre, c'est-à-dire qu'on crée une ambiance intimiste pour cette pièce de théâtre avec des petites tables individuelles pour que les gens ne se sentent pas perdus dans une grande salle.
Très bien.
Et qu'il y ait quelque chose de différent des pièces de théâtre traditionnelles.
Alors on continue les animations, on passe au mois de novembre.
Oui, le 26 novembre, le fameux marché de Noël qui se tiendra à la salle des fêtes de la fille de Vigordan. Petite précision aussi pour le café-théâtre, ce sera aussi à la salle polyvalente du village. Le marché de Noël, vous le connaissez, c'est traditionnellement des créateurs, des artisans, des produits du terroir qu'on trouvera sur les stands à nouveau cette année pour ce marché de Noël, je répète, le 26 novembre.
Et on passe alors avec quelque chose que vous faites pour la toute première fois. On attendra d'ailleurs pour ça le 17 décembre.
Oui, je vais laisser Luc en parler parce qu'il s'en est pleinement occupé et c'est quelque chose qui lui tient à cœur.
Oui, ça me tient à cœur puisque c'est une fête du livre et de l'image, c'est-à-dire, en fait, on pourrait appeler ça avec un nom que je trouve un peu trop pompeux, un salon du livre. On a sur l'Afit des animations qui se passent tout au long de l'année. On a l'Afit en scène qui dure depuis 6 ans, où on a des spectacles. On a l'Afit en Afrique où l'Afit vit, comme le dit le nom, à l'heure africaine pendant quelques jours. Depuis l'an dernier, on a l'Afit en chœur où l'association Au cœur du son invite des groupes polyphoniques et produit un spectacle. Et bien là, on aura l'Afit en livre, puisque ça manquait. Donc, on va recevoir pendant une journée, le 17 décembre, une vingtaine d'auteurs, d'illustrateurs ou même de photographes, puisqu'ils présenteront des livres de photos aussi. Et j'espère que il y aura des gens qui viendront, qui pourront rencontrer toutes ces personnes. C'est la première fois qu'on l'organise, on part un peu à l'aventure.
Oui.
Mais bon, je fais confiance aux auditeurs de Radio Galaxie pour nous soutenir dans cette action. Je voulais juste faire une petite précision sur ce qui a été dit avant.
Oui.
Je vous ai parlé du changement de nom de la médiathèque. À l'Afit, il n'y a pas que la médiathèque qui a changé de nom. On ne parle plus de la salle des fêtes. On parle de la grande salle du complexe des Pyrénées.
Ah.
N'est-ce pas?
C'est voilà. Bien.
Donc, c'est une innovation. Et là, il y aura une inauguration le 15 septembre, en grande pompe, puisque pour inaugurer les travaux qui ont été faits autour de cette salle des fêtes et justement autour de la mairie. Voilà, ça c'était un petit aparté.
Bien, très bien. Nous allons passer maintenant au coup de cœur.
Alors, le coup de cœur dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un roman intitulé « Esprit d'hiver » et c'est de la romancière américaine Laura Kasichke que j'ai découvert par le biais d'un réseau social dédié à la littérature. Je ne sais pas si on peut le nommer, si.
Mais pourquoi pas?
Et ben alors, il s'agit de Babelio. Vous savez, le principe est simple, vous entrez tous les livres que vous lisez et après on vous fait des recommandations par rapport aux lectures. Et donc très utile. Et c'est là où j'ai découvert cet auteur. J'en ai lu 4-5 romans de cet auteur et il me fascine. Il me fascine. Alors, je reviens à celui-là en particulier, Esprit d'hiver, parce que je crois que c'est le premier que j'ai lu d'elle et celui qui m'a le plus marqué. L'histoire est très simple. Comme dans tous les romans de Laura Kosciuszko, elle ancre ses personnages dans un environnement très réaliste. Ici, c'est une famille américaine moyenne. C'est le matin de Noël. Il neige. La famille et les amis sont invités à venir partager le repas. Mais dès le réveil, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on rentre dans une atmosphère, dans un environnement qui est inquiétant. Et vous savez, ça fait penser à l'expression de Freud, l'inquiétante étrangeté. Mm-hmm. Et c'est exactement ça. C'est une rupture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas le nommer. Et elle nous embarque là-dedans. Et jusqu'au bout, on se dit, mais c'est incroyable. Et tous les romans que je lis d'elle sont conçus de cette façon-là. Alors, Esprit d'hiver m'a vraiment particulièrement plu. J'ai un extrait, si vous voulez, parce que je crois que ça résume bien l'esprit. Oli baissa les yeux sur ses pieds. Et c'est alors qu'elle remarqua, tout autour de ses pieds, quelque chose de sombre, ou du sable, répandu sur le sol. Poussière ? Cendre ? Qu'était-ce donc ? Oli souleva un pied et en reposa la plante pour voir si elle était mouillée, si elle se tenait au milieu d'une flaque de quelque chose. Ce n'était pas le cas. Elle prit une éponge dans l'évier, s'agenouilla et essuya le sol. Rien. Elle ne ramassa rien avec l'éponge, et quelle que pût être cette tache foncée, elle n'était pas ni collante ni crasseuse. Elle fit courir sa main autour de la tache et découvrit que rien ne semblait s'être répandu à cet endroit, du moins récemment. Ce cercle était simplement, d'un noir plus foncé que le reste du carrelage. Les carreaux de céramique avaient-ils commencé à se décolorer ? Elle frotta plus fort avec l'éponge, mais rien n'y fit. Ou bien, si... Était-ce son imagination ? Ou le cercle sombre s'élargissait-il, s'épanouissait-il alors qu'elle passait l'éponge sur sa surface ? « Mais qu'est-ce que tu fiches ? Seigneur !» s'exclama Oli, « tu m'as surprise, je te croyais dans ta chambre. »« Maman, qu'est-ce que tu fais ?» redemanda Tatiana avec la même expression de surprise agacée. « Eh bien, on dirait qu'il y a quelque chose sur le carrelage, » répondit Oli, « mais je n'arrive pas à l'éponger. Tu vois comme c'est sombre, tout ce cercle ? On dirait une tache ou une décoloration, ou peut-être c'est toi. » Oli leva les yeux vers sa fille. « C'est toi, maman ?» Oli ne voulut pas demander à Tatiana ce qu'elle entendait par là. Elle ne lui faisait pas confiance. Il semblait qu'elle était capable de critiquer sa mère, quoi que Oli fasse ou dise. Puis elle trouva le courage de demander à Tati. « C'est moi que tu veux dire par là ? Maman, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire ?» Oli secoua la tête. Son regard passa de Tatiana à l'éponge qu'elle tenait dans sa main, puis de l'éponge au rond sombre par terre autour d'elle. « Maman, tu essaies d'effacer ton ombre. »« Quoi ?» fit Oli. « Pourquoi ces larmes soudaines dans ses yeux ? Pourquoi, une fois encore, éprouvait-elle ce sentiment d'abandon total, d'avoir été rejetée, abandonnée par tous ?»
Alors, en effet, c'est...
C'est très étrange.
Oui.
Très étrange. Et il s'agit beaucoup, dans l'extrait on le voit, d'une relation aussi entre... cette mère qui essaye vraiment de bien faire les choses. Et il y a des petits détails comme ça, l'éponge, une saleté, elle veut que tout soit parfait. Et la folie aussi qui la gagne. Et on le sent. Et cette fille, Tatiana, qui est une fille adoptée, on le sait dès le début, ils sont allés la chercher en Sibérie. Et depuis le début, il y a cette phrase qui revient comme un refrain dans le roman et qui dit « Quelque chose nous avait suivis depuis la Sibérie ». C'est très mystérieux, mais très intriguant. Et elle sait créer une atmosphère particulière. Vraiment, je le recommande.
Oui.
Ses autres romans aussi.
C'est presque un roman policier ou pas du tout ?
Pas du tout. Ce n'est pas un roman policier. Il n'y a pas d'énigme à résoudre. C'est une énigme alors psychologique.
D'accord.
Et tous ses livres sont sur le même
C'est sur le même modèle. Ouais. C'est une romancière qui enseigne en fait l'art d'écrire dans le Michigan.
Ouais.
Et je pense qu'elle a trouvé cette recette-là. Hein. Mm-hmm. En tout cas, elle fonctionne sur le lecteur parce qu'à chaque roman, j'ai le défaut de vouloir lire toujours tous les livres d'un auteur que je découvre. Et c'est toujours monté de cette façon-là. Mais ça ne reste pas moins intriguant. Et jusqu'au bout, elle nous tient et on ne sait pas si ce qu'on devine va vraiment être ça. On se dit, ce n'est pas possible. Mais d'accord. C'est ça.
Est-ce voilà. que ces livres, justement, sont louables à l'école des mots Marie Lannelongue?
Eh bien, nous avons fait l'acquisition de Esprits divers, tout à fait.
Très
alors
bien.
J'en soumettrai quelques autres titres mm-hmm. à l'achat, mais c'est vrai que oui, bien sûr, on peut trouver celui-là déjà.
Ça, c'est très bien qu'on puisse venir l'emprunter chez vous.
Je crois que tu devrais rappeler le nom de l'auteur parce qu'il est presque imprononçable. Alors, je vous dis pas pour l'écrire, mais elle s'appelle
Laura Kasichke, K-A-S-I-S-C-H-K-E, Kasichke.
C'est simple,
n'est-ce pas?
Et maintenant, notre coup de cœur musical du mois.
Coup de cœur musical, il s'agit d'un groupe que j'ai rencontré à Marciac lors du festival, le fameux festival de jazz à Marciac cet été. Et en fait, c'est pas un groupe que j'allais voir parce que je ne les connaissais pas, mais c'est dans un restaurant, avant d'aller voir Gregory Porter en fait. J'allais voir Gregory Porter ce soir-là. Et il se trouve que je suis allée dîner dans un restaurant et il y avait ce groupe. Et moi, je suis tombée, mais alors, comme disent les Canadiens, en amour avec la voix de cette chanteuse. Qui s'appelle Manel Chaniti et le groupe s'appelle Manel Chaniti Trio car comme son nom l'indique, ils sont trois et c'est un groupe qui reprend des standards de jazz mais qu'ils revisitent à leur façon. Il faut savoir que la chanteuse s'est intéressée très tôt au gospel et au jazz, ça donne une idée de ce qu'on va entendre, et a découvert les grandes chanteuses telles que Dinah Washington, Sister, Rosetta Tharpe, Ella Fitzgerald. Et ça l'a beaucoup inspirée. Elle est ensuite passée par le conservatoire de jazz de Bobigny, après avoir intégré des groupes de gospel à Paris. Et sa voix est vraiment délicieuse, c'est très feutré, et on a vraiment l'impression d'entendre une chanteuse comme Nina Simone ou Ella Fitzgerald. En 2014, Manel s'est installée dans le sud-ouest, avec son compagnon Benoît Torres, au piano. Et elle fonde une école de musique autour du jazz et du gospel. Et elle décide de créer un trio qui l'emmène à rencontrer le très talentueux saxophoniste et arrangeur Esaïe Cid, avec lequel elle se produit sur diverses scènes de festival. En 2017, elle fait son premier disque. Manel, donc Chaniti, est à la voix, Esaïe Cid au saxophone alto, Wilfried Arexis au trombone, Wilfried Arexis qui est aussi le directeur du conservatoire de Saint-Gaudens, et Benoît Torres au piano, ainsi qu'Arnaud Altel à la contrebasse. Le titre qu'on va entendre s'appelle « Accentuate the Positive » et c'est également le titre de l'album « Accentuate the Positive » Manel Chaniti.
Et où est-ce qu'on peut se procurer cet album ou alors est-ce qu'on peut trouver des infos sur ce petit trio?
Alors, la chanteuse m'a dit que le site était en construction, mais vous pourrez bientôt le voir sur Internet. Et le disque, on peut le trouver chez votre disquaire, dans les grands distributeurs. Il n'y a pas de souci, ils sont déjà le CD est déjà accessible.
Tu rappelles le nom du groupe, c'est
Manel Chaniti Trio. You've got to accent to wait.
Et dernier coup de cœur littéraire, cette fois c'est avec Luc.
Alors Gisèle, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est vraiment un coup de cœur pour moi, mais ce n'est pas une nouveauté, au contraire il est même très ancien. Et je l'ai découvert par le plus grand des hasards. Petite anecdote, je vais vous le dire. J'ai un petit-fils qui vient de rentrer en seconde dans un lycée, et lorsqu'il est allé finaliser son inscription au mois de juin, on lui a déjà donné une liste de livres à lire pendant les vacances, ce qui est très bien, avec bien sûr des fiches sur la lecture à réaliser. Et parmi ces livres, il y en avait un que je ne connaissais pas et qui était Le Liseur de Bernard Schlink. Comme quoi, finalement, on peut passer à côté de belles choses parce que ce livre est sorti en 1995. Bon, c'est vrai que ça fait quelques années et à l'époque, profession oblige, j'avais d'autres préoccupations. Donc pour ceux qui, comme moi, auraient zappé ce petit bijou, voici quelques mots sur Le Liseur de Bernard Schlink. L'histoire, c'est un garçon qui a une quinzaine d'années, qui s'appelle Michael, qui est le narrateur dans le livre, et qui découvre l'amour dans les bras d'Anna, une voisine de 20 ans son aînée. Alors pendant 6 mois, il est subjugué par cette femme, il la rejoint tous les jours, il partage avec elle les plaisirs de la chair qu'elle lui a fait découvrir. Et avant chaque moment intime, qu'est-ce qu'ils font? Elle lui demande de lui faire de la lecture, chose à laquelle il se plie sans problème. Mais un jour, sa maîtresse, dont il était vraiment entiché, disparaît, mystérieusement. Il n'a plus aucune nouvelle, il essaie de la retrouver, elle est rayée de la carte. 7 ans plus tard, alors qu'il fait des études d'avocat, il la retrouve par hasard parce qu'on l'avait envoyé en tant qu'étudiant en droit pour assister à un procès de crime de guerre. Et qui est-ce qu'il retrouve sur le banc des accusés? Il retrouve Anna. Une fois que la surprise est passée, il essaie de suivre le plus objectivement ce procès. Et il se rend compte qu'il détient une information qui pourrait innocenter Anna. Donc il se pose la question de savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit intervenir? Elle, apparemment, ne veut pas faire état de cette chose-là. Et finalement, par respect, il décide de se taire et il laisse le procès se dérouler comme cela. Ensuite, il va renouer leur relation pendant qu'elle sera incarcérée, puisqu'elle reste en prison pendant 18 ans. Et pendant toutes ces années, il va continuer à lui faire la lecture par cassette interposée, parce qu'il a compris beaucoup de choses au cours de ce procès. Petit mot sur Bernard Schlink. C'est un auteur de plusieurs romans policiers qui ont obtenu déjà plusieurs prix. Et je pense que là, il a quand même écrit une de ses œuvres les plus émouvantes. Il a un style limpide, un style bref. Il raconte donc un amour qui perdure malgré le temps et le regard des autres. Cela donne à sa littérature une certaine valeur, pour employer un grand mot, curative. Par-delà cette anecdote et l'histoire qui est dans ce livre, je pense que Schlink nous invite un peu aussi à réfléchir sur des notions plus capitales que celles, par exemple, de l'interprétation de la vérité, la responsabilité de nos actes ou, bien sûr, la confrontation au passé nazi. C'est un bouquin, en fait, en 3 actes, en 3 parties. Elles sont équilibrées et aussi intenses les unes que les autres. De la rencontre à l'abandon, des retrouvailles ou au dénouement final, le roman se tient parfaitement en allant toujours à l'essentiel. Et encore une autre petite chose, ça m'arrive rarement. Quand je suis arrivé au dénouement, que j'ai tourné la page et que j'ai lu ce qui se passait, je crois que d'ailleurs c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas pu m'empêcher de dire « Ah ben ça alors !» Tellement je m'attendais pas à cette fin-là. Et ça traduit quelque chose de profond qu'on ressent. On se dit « Mais non !» à la fois peut-être de la déception, de la surprise.
Oui.
Donc c'est pour vous dire que le roman est très bien construit, très bien écrit, pour qu'on en arrive à la dernière page complètement étonné de ce qui se passe.
Mais dis-moi, Luc, livre a été adapté au cinéma, n'est-ce pas ?
Ah, mais bien sûr, j'allais y venir, tu fais bien d'en parler. Ce livre, effectivement, a été à l'origine d'un film qui s'appelle The Reader, puisque le titre anglais est The Reader. Ils n'ont pas laissé le liseur, je ne sais pas pourquoi. Et ce film a été tourné aux USA en 2008. Il est sorti en France une année plus tard, en 2009. Il a été réalisé par Stephen Daldry. Le rôle d'Anna dans ce film est interprété par Kate Winslet. Et c'est Ralph Waynes qui interprète Michael. Il faut savoir que ce film a quand même eu à sa sortie 16 nominations et qu'il a obtenu 9 distinctions, et notamment, entre autres, l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film dramatique de 2009. Donc je pense que c'est une référence et que vous pouvez aller le visionner sans hésiter. De plus, au dire des critiques, c'est un des rares films qui ne dénature pas le roman. C'est-à-dire que, bien souvent, quand on lit un roman et qu'on voit un film après, on se dit « quel dommage, ils n'ont pas su vraiment retranscrire ». Alors que là, apparemment, le film tient... Je dis apparemment parce que, vous voyez, si je suis néophyte sur ce bouquin, je n'ai pas encore vu le film. Mais je ne vais pas tarder à aller, puisqu'il est toujours disponible sur toutes les plateformes de vidéos à la demande. Je vous rappelle le titre, Le Liseur, Bernard Schlink. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ?
Je dis, le dénouement est tel que on ne pouvait que respecter. Le réalisateur ne pouvait pas tellement prendre de liberté.
Mais je crois que tu l'as vu, le film, toi.
Le film est d'une beauté rare. Et très, très riche en émotions. Enfin, en tout cas, on sort pas pareil.
Vous ne perdrez pas votre temps et vous ne serez pas déçus si vous lisez et si vous regardez Le Liseur, Bernard Schlink.
Très bien, voilà de belles nouvelles pour une belle rentrée, donc avec L'école des mots, Marie-Lanne Long de Lafitte Vigordan. Merci beaucoup Stéphanie, Luc.
Merci à vous Gisèle.
Ben, merci à toi Gisèle, merci à Radio Galaxie et... Merci à tous les auditeurs qui nous auront écoutés. Et bien sûr, n'oubliez pas, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Au fil des mots. Au fil des mots, une émission proposée par l'école des mots Marie-Lanne Long, médiathèque de Lafitte Vigordan.
Retrouvez-nous le deuxième mardi de chaque mois à 18h et le dimanche qui suit à 10h30 sur les ondes de Radio Galaxie 98.5 FM.